Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour chers auditeurs, en ce début d'année 2026, on va aller se réchauffer au soleil et peut-être se risquer, en regardant les belles photos que j'ai sous les yeux, à imaginer qu'on est sous l'eau, ce qui ne serait pas désagréable. Alors, j'ai sous les yeux quelqu'un et quelque chose. J'ai sous les yeux Claude Saint-Es, qui est notre invité du jour. Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Alors, nous l'avons déjà reçu parce que son histoire avec l'Antiquité, elle est longue et variée. Donc, on en reparlera un petit peu, bien sûr. Et puis, quelque chose parce que j'ai sous les yeux un énorme livre et très beau livre qui s'appelle Apollonia, le port de Cyrène, et dont nous allons pouvoir parler aujourd'hui, ainsi que de toute l'expérience qu'il y a autour. Alors, Claude Saint-Es, ben, on ne le présente plus. Hein. Il est pour nous à jamais le conservateur du Musée Bleu, le musée d'Arles. Son titre, en réalité, vous êtes conservateur. Quel est votre titre officiel désormais, puisque vous êtes à la retraite?
Alors, je suis conservateur en chef honoraire du patrimoine.
Oh, c'est impressionnant. Donc, vous avez été conservateur du Musée d'Arles un grand nombre d'années.
Oui, de 1984. Où j'ai pris la suite de mon maître Jean-Maurice Rouquette, que vous connaissez bien aussi sur vos antennes, et jusqu'à ma prise de retraite administrative en 2019. Je dis administrative parce que j'ai quand même continué à travailler après.
Voilà. Alors donc, au Musée d'Arles, beaucoup de choses ont été faites, dont on a déjà parlé dans d'autres émissions, mais c'est le coup d'envoi qui a été donné à ce dont on parle tout le temps, c'est toujours d'actualité, cette grande salle qui a été bâtie autour de ce bateau à fond plat exhumé du Rhône, et vous êtes à l'origine de ce travail, à la fois la fouille et la reconstitution, avec, comme je l'ai dit, c'est assez unique, la construction d'une pièce pour cette pièce.
Oui, effectivement, le musée d'Arles était parfaitement dimensionné pour ses collections, mais lorsque ce bateau est arrivé, eh bien, c'était un objet, si je puis dire entre guillemets, qui mesurait 30 mètres de long. Et quelque chose de 30 mètres de long, on ne l'installe pas comme ça en poussant les murs. Donc il avait été nécessaire de créer une extension de ce musée pour pouvoir accueillir non seulement le bateau qui a été fouillé, démonté et restauré, mais aussi tous les objets qui ont été découverts par les équipes sous-marines au fond du Rhône, et ils étaient très très nombreux, donc on a pu avoir une vision extraordinaire du commerce, des échanges à l'époque romaine grâce à ces fouilles.
Et alors, cette construction de cette salle a un petit peu perturbé le plan initial du musée avec cet architecte auquel nous avons rendu hommage dans une émission précédente. Mais ça valait le détour, comme on dit, parce qu'il fallait bien lui trouver cette place énorme. Si un jour on voulait le déplacer, on ne pourrait plus.
Ah, tout à fait. C'est-à-dire que, oui, il y a eu évidemment le besoin d'étendre le musée. Donc, l'architecte Henri Siriani, que nous n'avions pas réussi à trouver à l'époque, parce qu'il était retourné au Pérou,
oui.
Avait effectivement été un peu malheureux de voir cette extension sans qu'on ait pu le consulter. Mais c'était nécessaire parce que cet objet. Voilà, on ne pouvait pas faire autrement. Et cet objet du patrimoine a vraiment désormais sa place, le public l'apprécie, on le trouve et beaucoup de gens estiment que effectivement l'architecture du musée est belle, hein. Henri Siriani avait fait quelque chose de magnifique, mais voilà, quelque chose d'inattendu qui ne pouvait pas être prévu est arrivé et ce bateau a dû être mis en place. Mais pour répondre à votre question, non, on ne pourra plus jamais le bouger parce qu'il a été reconstitué sur place morceau par morceau.
Oui.
Et donc, voilà, les bois ne pourront plus être transportés.
C'était déjà un beau miracle d'avoir pu le reconstituer, faire traiter le bois, etc. Mais aujourd'hui, donc, nous n'allons pas parler de ce bateau, même si l'élément liquide sera tout le temps le point commun. Je pense que depuis tout petit, depuis votre naissance de l'autre côté de la mer, eh bien, la mer vous passionne et tout ce qui concerne l'archéologie d'une part, l'antiquité, mais aussi la plongée, c'est votre domaine.
Oui, tout à fait. Tout enfant, quand on est... je suis né en Algérie dans les années 50. Quand on est là-bas, on a un masque et des palmes dès qu'on a... dès qu'on sait marcher, on a des palmes et un masque. Et ce bonheur d'être sous l'eau, de voir ce qui se passait sous les flots, qui me fascinait étant enfant, eh bien, a perduré. Et c'est vrai que... Alors, je ne suis pas un archéologue sous-marin comme mes collègues du Drasme peuvent l'être, mais je fais de l'archéologie sous-marine et notamment... La chance que j'ai eue de pouvoir être invité à participer à ces fouilles en Libye pour la fouille donc de cette cité engloutie, Apollonia de Cyrénaïque.
Alors justement, c'est de ça qui va être question maintenant. Donc, vous avez été sollicité pour terminer quelque chose qui a commencé il y a fort longtemps et qui avait été interrompu par tous les événements qui se sont produits en Libye.
Alors, c'est un peu plus compliqué, si je puis dire, puisque j'ai été invité en 1985 à participer à la mission archéologique française de Libye, qui est une très vieille mission. Elle est en Libye depuis les années 50. C'était l'égyptologue Monté qui avait commencé, puis ensuite François Chamou, l'helléniste, et enfin André Laronde. Et aujourd'hui, c'est Vincent Michel, professeur à Poitiers, qui en est à la tête de cette mission. Et j'avais été appelé pour pouvoir faire de l'archéologie terrestre, participer aux fouilles terrestres. Et comme je vous le disais à l'instant, j'ai toujours un masque et des palmes avec moi dans mon bagage. Et là, j'ai nagé sur ce site et j'ai pu me rendre compte que les vestiges qui étaient connus déjà, qui avaient déjà été signalés, ces vestiges étaient d'une telle ampleur qu'ils demandaient une fouille en soi. Et donc, j'avais proposé au chef de mission de l'époque, André Laronde, de pouvoir conduire une mission spécifiquement sous-marine et plus terrestre. Et donc, à ce moment-là, eh bien, nous avions eu les autorités libyennes qui nous avaient donné la possibilité de le faire par un permis, comme on dit. Et ces fouilles ont duré pendant près de 20 ans. Et vous faisiez allusion à 2011, bien sûr, ça a été les grands problèmes que l'on a connus avec la guerre civile libyenne. Et l'été passé, j'ai pu revenir dans ce pays pour préparer la suite, c'est-à-dire les gens qui vont me succéder pour faire ces fouilles sous-marines.
Donc, on le constate une fois de plus, être à la retraite, ça occupe à plein temps.
Ah oui, ça c'est pour ça que je dis toujours que je suis à la retraite administrative, c'est-à-dire que je ne dépends plus de la même administration et surtout je n'ai plus de responsabilité par rapport à du personnel ou par rapport à des budgets, etc. Mais l'activité elle-même est toujours énorme avec beaucoup de publications, avec des conférences, avec les participations à la mission archéologique française de Libye. Et puis aussi j'ai pas mal de travail avec le musée de Carthage. Vous voyez, on est toujours sur l'autre côté de la Méditerranée.
Oui.
Puisque je suis expert auprès d'une agence qui s'appelle Expertise France pour la refonte du musée de Carthage qui est en cours.
Ah oui, puis là, il y a un gros travail à faire. Hein.
Oui, c'est un énorme travail.
Énorme travail. Donc là, c'est sûr, on vous reverra pour ce sujet passionnant. Alors d'abord, avant de nous plonger, c'est le cas de le dire, dans ce livre et dans cette aventure, un petit mot de l'éditeur. Donc c'est Rive-Neuve. Et l'ouvrage que j'ai sous les yeux, très gros ouvrage, je l'ai dit, c'est Collection études libyennes numéro 5. Donc je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas trop le temps les quatre numéros précédents, mais qui avait la même façon d'opérer. Et là, donc, c'est un ouvrage collectif qui paraît là, qu'on peut trouver soit en le commandant dans une librairie, soit en allant sur le net, en tapant tout simplement Claude Sintès Apollonia. Et on va dire dans un instant ce que c'est qu'Apollonia. Et là, on pourra accéder à ce livre magnifique. Alors, je dis tout de suite aux auditeurs que ce n'est pas un livre qu'on lit en 5 minutes. Hein. C'est un livre qu'on prend, qu'on reprend. Il est magnifique parce qu'il y a des photos. Alors, c'est à la fois scientifique parce que tout est détaillé avec des croquis précis. Et en même temps, c'est artistique parce que c'est d'une beauté faramineuse avec des photographies de grande qualité. Alors donc, c'est les éditions Rive-Neuve, je le répète. Je voudrais d'abord, avant qu'on revienne à Apollonia elle-même, savoir comment on fait ce genre de livre, parce que donc, c'est un ouvrage collectif. J'ai compté qu'il y avait 6 contributeurs, sans parler des traducteurs, sans parler des préfaciers. Hein, mais 6 contributeurs, alors Il faut quand même dire que, Claude Saintès, vous êtes là au travail très, très souvent. Hein. Les articles, c'est presque toujours vous. Comment ça s'est organisé, ce livre donc énorme, dont je vais dire, et ça va étonner plus d'un auditeur, qui ne comporte qu'une introduction, j'ouvre des guillemets avec une, trois chapitres, c'est pas beaucoup apparemment, et une conclusion, sans compter les pièces annexes. Comment alors on arrive à ces trois chapitres? Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Des chapitres monstrueux, en fait, à l'exception du chapitre 2.
Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'on a transcrit à travers cet ouvrage près de 20 ans de fouilles. Des fouilles, ça ne se mène plus comme au 19e siècle, tout seul, avec des flopées de gens autour, mais on est dans du pluridisciplinaire. Donc, les contributeurs, mes collègues qui sont ici, sont chacun spécialiste d'une question particulière. Vous avez des collègues qui sont spécialistes d'architecture navale, comme Luc Long, par exemple.
Luc Long, on l'interviewe très souvent.
Oui, j'imagine, hein, il doit être familier de votre antenne. Thierry Châtelain, qui est un Suisse et qui est spécialiste de céramique. Philippe Rigaud, qui est notre collègue aussi, qui lui est spécialiste de l'instrumentum, hein, c'est-à-dire ces petits objets qui, notamment, étaient sur les bateaux. Vous avez Jean-Marie Blas de Robles, qui, lui, a fait un travail sur les bronzes et sur les marbres, donc les objets que nous avons trouvés dans le fond je suis sur Arles encore,
oui.
le fond du bassin donc, d'Apollonia. Et puis, on a Éric Pesarelli qui, lui, a fait une étude très technique sur les accrochages par queue d'aronde pour les blocs qui devaient tenir ensemble. Voilà, donc chacun est spécialiste. Et moi-même, je me suis attelé, comme vous disiez, c'était le plus gros morceau, à toute l'étude architecturale. Donc, mon travail, ça a été d'écrire ma partie, bien sûr, mais de coordonner aussi tout le travail de tous les collègues pour que nous puissions avoir quelque chose qui soit harmonieux et où on puisse montrer au lecteur à la fois l'importance de ce port dans son architecture, mais aussi son importance pour son commerce, son importance pour ses relations avec la Grèce et avec Rome plus tard, etc. Donc on a pris en compte tous ces aspects pour que l'on puisse avoir un bel état de la question des fouilles sur ce site.
Trois chapitres, je vais simplement les nommer. Hein. J'ai compté les pages, mais je vais vous épargner ce compte. Alors, une énorme introduction. Ça, on sait que c'est important parce que peu de gens connaissent ce site et il fallait bien le contextualiser à la fois dans la géographie et dans l'histoire. Et l'histoire des fouilles, c'est l'histoire du site et l'histoire de la redécouverte du site. Le chapitre 1, énorme, donc c'est l'étude architecturale auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Un chapitre beaucoup plus petit, mais technique, sur l'étude navale. Donc, c'est là qu'on retrouve Luc Long, par exemple. Et enfin, chapitre 3, les études mobilières, c'est-à-dire tout ce qu'on a trouvé au cours de ces fouilles.
Oui, le mobilier en archéologie, c'est du jargon, mais ça veut dire les objets qui ont été découverts et qui demandent à être étudiés.
Alors, je m'intéresse toujours aux métiers autour de l'archéologie parce qu'il y en a énormément. Vous avez cité Éric Pesarelli et je vois que son titre, c'est « Instructeur en archéologie sous-marine ». Ça, c'est un titre vraiment très précis.
Oui, tout à fait, parce que Éric est un excellent plongeur et il fait partie d'associations où il fait partie de la Fédération française de plongée sous-marine et ils ont des possibilités, si vous voulez, d'être initiés à l'archéologie sous-marine pour pouvoir, le cas échéant, travailler avec des archéologues professionnels en leur donnant la main, en étant, si je puis dire, des aides. Hein. Comme on a un peu des bénévoles sur les fouilles terrestres, on a des bénévoles sur les fouilles sous-marines. Et avoir une connaissance déjà de ce que l'on va trouver, de ce que l'on peut espérer voir, c'est quelque chose d'intéressant.
Et alors, les photos aussi par un technicien spécialiste aussi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait, au cours de la mission, on a eu plusieurs photographes qui sont venus, qui étaient des plongeurs, mais qui étaient capables aussi de travailler les photos sous l'eau, avec les bons éclairages, avec les bons angles, etc. Et on a eu plusieurs photographes, donc, notamment certains qui appartenaient au CNRS, comme Chénet, par exemple, qui est un grand photographe
sous-marin. Oui, une grande pointure, oui. Alors donc, ce travail s'est fait. Bon, il y a eu ce mois dont vous avez parlé, où vous êtes allé faire le bilan de tout, hein, l'aboutissement de tout ce qu'il y avait eu précédemment et auquel vous avez participé. Et après, j'imagine que chacun a travaillé dans son coin, sur son petit ordinateur, et que vous communiquiez par Internet, ou alors vous aviez de visu beaucoup de réunions.
Non, on a eu plusieurs échanges, évidemment, comme aujourd'hui, par Internet. Hein, c'est le plus facile quand on est éloigné géographiquement. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu demander à chacun s'il était à même, s'il avait non pas la capacité intellectuelle qu'il l'avait, mais la capacité en temps de pouvoir rendre un chapitre dans les temps qui était imparti, c'est-à-dire que l'on avait
un
cahier des charges, hein, la capacité à faire le livre, c'est pouvoir y mettre des mots, pouvoir y mettre des photos, mais ensuite pouvoir les assembler grâce à un maquettiste. Ça, c'est le travail de Rive-Neuve. Et puis mettre en place un programme financier, c'est important. Donc ça, c'était aussi le travail de notre chef de mission, Vincent Michel, pour la mission archéologique française. Et lorsque tous ces éléments sont réunis, eh bien, voilà, on donnait la matière à ce maquettiste. Il nous a fait plusieurs maquettes. La maquette a tourné, c'est-à-dire qu'on a pu voir si chacun avait bien été compris dans son texte et surtout dans son lien entre les textes et les photos. Et à ce moment-là, eh bien, on a pu proposer cet ouvrage et il est désormais sorti.
Alors donc, je conseille de l'acheter, de se régaler, de l'ouvrir, de le consulter et de prendre tout son temps pour cela. On va marquer une petite pause musicale avec de la musique qui est une musique de reconstitution de l'Antiquité, la musique grecque. Et ensuite, nous retrouverons Claude Sintès pour évoquer vraiment Apollonia. À tout de suite. Alors, c'est la deuxième partie de l'émission Antiquissimo consacrée à Apollonia, le port de Cyrène, et à Claude Sintès qui est venu d'Arles, parce que finalement, vous habitez toujours Arles.
Oui, toujours, à côté du musée, toujours.
Bon, formidable. Et alors là, j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs donc, ce que c'est que ce site, comment il a plongé et comment on l'a ensuite redécouvert et comment on a pu retrouver les quais, qu'on a pu retrouver pas à pas tous les éléments d'un port.
Alors, c'est une belle histoire que cette histoire d'Apollonia, puisque c'est une ville qui va apparaître au moment où les Grecs entament leur grande migration, c'est-à-dire ces migrations qui interviennent au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, C'est comme ça que Marseille va être fondée par les Phocéens. C'est comme ça que la Grande Grèce apparaît avec ces grandes villes que l'on connaît en Sicile ou au sud de l'Italie. Et c'est comme ça qu'apparaît Apollonia, puisque ce sont des Téréens, c'est-à-dire des habitants de l'île de Santorin, qui vont vers 700 à peu près avant Jésus-Christ, migrer pour créer une fondation. Cette fondation, c'est Cyrène, la fameuse Cyrène, avec Simon de Cyrène, avec toutes sortes de grands hommes qui l'ont fréquenté. Et puis, il y a un besoin pour ces gens-là, qui vont produire des denrées agricoles, qui vont avoir besoin d'importer un certain nombre de matières premières. Il y a un besoin d'avoir un port. Et ce port, c'est Apollonia. C'est pour ça qu'on l'appelle Apollonia de Cyrénaïque. Et ils vont donner le nom d'Apollonia parce qu'ils voulaient remercier Apollon de leur avoir indiqué ce site, d'avoir indiqué d'aller vers l'Afrique, donc vers ce qui va être Cyrène, pour avoir une colonie prospère. Et donc, ce site a perduré depuis environ 700 avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Donc, on a une période
incroyable.
Exactement, on a une période extrêmement longue. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de fouilles sous-marines alors que c'est un site terrestre? Eh bien, c'est tout simplement parce que aux alentours, d'après nos calculs, du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, le site s'est enfoncé, le site portuaire, s'est enfoncé sous les flots à la suite d'un mouvement tectonique. Il faut savoir que Apollonia se trouve juste en face de la crête et qu'il y a entre la crête et l'Afrique une grande faille et des mouvements tectoniques se placent puisque vous avez la plaque africaine qui rencontre la plaque européenne. Et donc, il y a eu non pas, comme on aurait pu le croire, un mouvement très violent avec des tremblements de terre ou avec un tsunami, mais il y a eu un affaissement très graduel qui fait que le port a peu à peu été englouti, mais très lentement.
Comme un ascenseur, en fait.
Tout à fait, exactement, comme un ascenseur. Ça a baissé très, très lentement. Nous le retrouvons d'ailleurs à travers nos fouilles, puisque nous avons pu voir que plusieurs maisons qui, aujourd'hui, sont complètement englouties, ont vu l'eau monter peu à peu. Et les propriétaires de la maison, eh bien, ont voulu se prémunir de cette montée de l'eau très lente en rajoutant des épaisseurs de terre et des sols nouveaux dans leurs pièces. Donc, leur sol qui était, un sol de terre battue ou avec un sol avec des mosaïques ou autre, eh bien, peu à peu a été humidifié. Et les gens ne se rendaient pas compte de ce phénomène parce qu'il était extrêmement lent. On prenait un centimètre tous les 10 ans, par exemple. Hein. Et donc, peu à peu, ils ont compris qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans leur maison et ils ont fait des sols surélevés. Et puis, au bout d'un moment, on s'est aperçu que quand ils ont rajouté 30 ou 40 ou 50 centimètres dans leur maison, eh bien, ils ne pouvaient pas. Ils ont compris que le phénomène était irréversible. Et à ce moment-là, ils ont abandonné leur maison du bord de l'eau et ils sont allés sur le site, dans une zone plus haute, vers l'acropole, où là, ils étaient 20 mètres ou 25 mètres au-dessus de l'eau, et là, ils n'ont plus de problème.
Ils ont vécu de drôles de choses. Hein,
exactement. Ouais. Mais c'est intéressant, parce que ça doit parler à vos auditeurs, puisque nous entendons tous parler de ce problème de la montée des eaux. Certaines zones très basses commencent à avoir...
En Camargue, on a des soucis à se faire. Hein,
exactement. En Camargue, vous avez des îles, je ne sais plus où, dans les Maldives, je crois, ou ailleurs, où on commence à avoir de l'eau qui monte. Et c'est exactement le même problème qu'ont connu ces Apolloniates. Et la réponse a été qu'ils ont essayé de se mettre dans des espaces plus hauts pour pouvoir être tranquilles.
Mais il a fallu abandonner beaucoup de choses.
Tout à fait. On a constaté que toute la zone portuaire avec les deux bassins, puisque Apollonia comptait deux bassins avec leurs quais, mais aussi tous les quartiers qui étaient autour, les quartiers avec des greniers, avec des maisons, avec toutes sortes d'aménagements portuaires, eh bien tout ça a été abandonné peu à peu. On pense que l'eau a monté entre le... Ça a commencé au 4e siècle et ça s'est arrêté au 7e siècle. Donc pendant 3 siècles, eh bien le sol s'est affaissé peu à peu. C'est ce que les géographes appellent un mouvement de subsidence.
Oui. Donc, une sacrée aventure. Et dans tout ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Alors, au point de vue architectural, c'est sans doute le chenal d'accès, puisqu'il faut que, pour que vos éditeurs comprennent, il y avait un port extérieur qui était ouvert très largement sur la mer, et un port intérieur, donc deux anses en quelque sorte, hein, deux petites anses qui constituaient ces bassins portuaires. Donc le port intérieur, lui, était ouvert sur la mer par un chenal qui était relativement minime, si vous voulez. Hein. On rentrait avec un bateau, mais c'est à peu près uniquement ça. Et lorsque les gens d'Apollonia se sont aperçus que l'eau montait, ils ont essayé de boucher ce chenal.
Ah oui.
Et donc, ils ont amené des milliers de mètres cubes de terre, de blocs, toutes sortes de choses. On a même trouvé des pierres tombales, si vous voulez. Et donc, ils ont jeté toute cette terre dans le chenal pour essayer de le boucher et pour empêcher que l'eau continue à rentrer et ne noie peu à peu les habitations, les quais et tout ça. Et ça a demandé un travail colossal. Que l'on peut évaluer à plusieurs milliers de mètres cubes de terre et de blocs et de toutes sortes de choses qui ont été ramenées. Pour nous, c'est un bonheur, parce que dans cette terre, il y avait plein d'objets architectoniques qu'on a pu étudier, mais il y avait aussi plein de céramiques, hein, quand on ramasse de la terre comme ça.
C'est une sorte de Pompéi sous l'eau, quoi.
Tout à fait, exactement. Mmh. Donc on a eu vraiment énormément de mobilier, comme on dit, hein, de matière intellectuelle, mais aussi de matière physique, qui nous a permis de dater. Et c'est pour ça qu'on a pu savoir que cet effort énorme qui avait été fait à cette époque, eh bien, c'était au VIe siècle après Jésus-Christ.
Alors évidemment, on n'a pas tout dit, mais ce n'était pas le but du jeu. Hein. Les auditeurs auront à cœur de regarder, après l'avoir acheté, ce magnifique livre. Il me reste à vous remercier et en vous disant à la prochaine fois.
Eh bien, écoutez, à la prochaine fois.
Au revoir.
Merci à vous.